Bonsoir, merci d'être venu pour cette rencontre avec l'écrivain Sébastien Gendron pour parler de son dernier roman qui s'appelle Révolution et qui se trouve lui ici. Voilà. Révolution, c'est le 11e, j'ai bien calculé, c'est le 11e roman dans la catégorie adulte.
Oui.
Bon, voilà, jusqu'ici tout va bien. Tu as aussi écrit quelques... deux romans, je crois, pour adolescents, enfants et adolescents. Hein. Mm. Voilà. Et donc, on va parler essentiellement de Révolution, donc ton dernier roman. Donc, d'où est venu ce thème ? Parce que c'est un thème, donc c'est un roman noir, bien entendu. Hein. On est là pour parler de romans noirs. Et donc, Sébastien Gendron écrit des romans noirs et celui-là est un roman noir, soyons clairs. Voilà. Et d'où est venue l'idée de ce roman donc, qui parle de révolution ? Enfin, on le verra dans le détail, mais au départ, qu'est-ce qui t'a déterminé à écrire ce roman sur deux personnages qui vont essayer de fomenter, comme on dit, une révolution plus ou moins pacifique, enfin on le verra, dans notre France du début du 21e siècle, de la deuxième décade.
Deuxième du 21e
siècle, parce que c'est très clair, on est à notre époque.
Ah, on est vraiment aujourd'hui. Et en fait, c'est un projet qui remonte au début, tout début des années 2000, où j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, la vision d'une femme sur une autoroute avec un flingue sur la tête, avec cette phrase, disons, je ne sortirai pas de là tant que les gens n'auront pas décidé de faire la révolution. Et ça a travaillé dans ma tête. J'ai découvert qu'on pouvait obtenir une bourse à l'écriture du Centre National du Livre en proposant des projets. Donc du coup, celui-là me trottant dans la tête depuis un petit moment. À l'époque, je m'étais imaginé que je pouvais en faire un film, puisque à côté de ça, je suis réalisateur. Et j'avais imaginé des grands trucs. Alors je m'étais dit, tiens, Vanessa Paradis, ça serait pas mal. Gonoriez pas. Pourquoi pas Vanessa Paradis d'ailleurs. Et en fait, j'avais écrit un court texte. Non, mais en fait, je dis Vanessa Paradis, mais c'est pas complètement par hasard. C'est parce qu'il s'avère que sur un tournage, j'ai tourné avec son oncle Didier Pin, et j'avais écrit un court texte pour résumer un peu l'intrigue, en lui demandant de le passer à Vanessa Paradis. Alors, j'ai jamais eu de nouvelles de Vanessa Paradis, bien sûr. Elle avait d'autres chats à fouetter. N'empêche que la vision est restée et pendant très longtemps j'ai eu l'idée d'écrire un scénar là-dessus. Et puis, donc j'ai découvert la bourse à l'écriture du CNL et je l'ai proposé comme roman. Mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment. Il n'y avait que cette séquence-là. C'est-à-dire cette femme sur un pont autoroutier avec un flingue sur la tête. Elle était seule. Il n'y avait pas de mec avec elle. Ou en tout cas, au départ, il y en avait un, mais il se barrait très très vite. Il n'avait pas les couilles de suivre. Et donc, je me suis dit, on va partir là-dessus. Donc, j'ai eu la bourse du CNL. Et puis, comme un bon élève touchant de l'argent de l'argent public,
illégal, hein, bon élève.
Parce que je suis très, très bon élève. Il y a des gens ici pour en attester. Je me suis dit, bon, j'ai touché une bourse du CNL. On va faire les choses très sérieusement. Alors, je m'étais acheté des carnets Moleskine dans lesquels j'ai pris plein de notes. J'avais demandé à un copain de me faire toute une espèce de bibliographie autour du thème de la Révolution. Donc il y avait tout un tas de... J'avais acheté plein de bouquins, je m'étais dit, bah oui, j'ai de l'argent public, donc il faut que je l'investisse un peu dans de la recherche bibliographique. Et puis bon, j'ai commencé à lire Bourdieu, j'ai commencé à lire un peu tous ces textes-là, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non mais, un, je suis trop feignant pour me documenter autant, hélas pour moi. Et puis, en fait, en même temps, ça collait plutôt bien à mon personnage, parce que j'avais pas envie d'en faire un personnage... verbeux, quoi. J'avais pas envie d'en faire une nana qui arrive avec des textes plein la tête, vu qu'elle s'adresse à la population qui part en vacances. Donc j'ai un peu laissé de côté. J'ai mis de côté, j'avais écrit, je sais plus, une centaine de pages, et puis j'ai laissé tomber, j'ai continué à produire des trucs à côté. Et puis, il y a 2 ans, mon dernier bouquin chez Albin Michel est sorti, et mon éditrice, pendant 10 mois, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous, on attend le prochain là. C'est quoi le prochain? Donc elle me disait, envoie-moi des trucs, et puis ça marchait pas, j'arrivais pas à écrire quoi que ce soit. Et puis j'avais écrit un espèce de texte hyper long, de 470 pages, avec plein de personnages qui partaient dans tous les sens, j'avais aucune fin. Et elle me dit, bah, écoute, envoie-moi, c'est pas grave, il faut qu'on sorte un truc. Donc je lui envoie le manuscrit, et elle me dit, ouais, effectivement, c'est un peu trop long, il faudrait que tu choisisses des personnages parmi ceux-là. Et puis que donc je récupère le manuscrit, j'en sors trois. Je sors trois personnages sur les 15 qu'il y avait. Et là, elle me dit, écoute, tu te maries le 2 juillet, le 30 juin, tu m'as renvoyé ta copie, sinon t'es pas publié, tu seras pas programmé en 2017. Pour un écrivain, ça fout un peu les chocottes quand même. Donc résultat des courses, j'ai éliminé tous les personnages de mon histoire, j'en ai récupéré trois. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai le début pour écrire Révolution. J'ai commencé à écrire Révolution et j'ai matché les deux textes et tout est parti comme ça. C'est-à-dire avec une grosse colère qui, de toute façon, bah, m'habite évidemment continuellement. Et puis voilà, lier les deux textes, c'est fait finalement assez naturellement.
Je vois. Alors, l'histoire, alors, je ne vais pas dire le pitch parce que c'est... un terme anglais qui ne me plaît pas.
Le surrésumé,
voilà. Le résumé de quelques, du départ et le suivant. Et tu m'arrêtes quand j'en lis vraiment trop. Hein, quand je passe à la centième page. Ce sont, on pourrait dire, deux laissés pour compte, un couple. Enfin, disons, au départ, il y a un homme et une femme. L'homme s'appelle Georges, la femme Pandora. J'ignore si c'est à cause de Pandora, cette personne de... qu'on voit souvent au cinéma, dans beaucoup de rôles au cinéma, hein, en partie. Donc ces deux personnages se retrouvent par les hasards du travail en miettes, du travail d'intérim, et ensemble, ou plus exactement c'est elle, qui fomente un projet, donc, projet de faire la révolution. Ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on s'arrête au départ sur d'où viennent ces personnages, ceux qui sont... Ce que tu as voulu dire en nous montrant des gens qui travaillent en intérim, qui sont dévalorisés, qui se sentent dévalorisés dans leur travail, et qui sont d'une certaine manière acculés socialement, de telle sorte que bon, ils vont faire une sorte de saut dans l'inconnu révolutionnaire, si on peut dire.
Ah, totalement inconnu. Mais, moi, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai fait de l'intérim comme pas mal d'étudiants ont pu en faire quand il s'agit de mettre une baguette de pain et un morceau de pâté dans le frigo quand on est étudiant. Et je me suis rendu compte en fait assez rapidement. Mon épouse est conseillère d'orientation. Je vois en fait tous ces gamins à qui on demande à 16 ans déjà de mettre sur la table un projet de vie, enfin un projet professionnel, ça déjà complètement hallucinant, qu'on demande à un gamin de 16 ans qui a même pas passé son bac de français, de dire ce qu'il veut faire plus tard. Nous, on avait déjà ça. On nous demandait aussi hein, très tôt ce qu'on voulait faire. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ça commence à se cimenter déjà à cette époque-là. Nous, à l'époque, c'était encore frais. On pouvait aller faire des études et puis il en sortait ce qu'il en sortait. Aujourd'hui, on veut rationaliser tout ça. Alors, on demande à des gamins de 16 ans de faire un plan de carrière alors qu'ils découvrent tout juste la vie, le sexe, un petit peu l'alcool, enfin les joies de la vie, quoi. On leur demande de faire un projet de carrière et puis sauf que en fait au bout du compte on est incapable aujourd'hui de leur promettre que le métier qu'ils ont choisi à 16 ans ils vont le faire jusqu'au bout de leur vie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on leur dit juste une chose, c'est que on leur dit même pas d'ailleurs, il y a des chances qu'en fait ils soient virés, qu'ils reconsidèrent leur plan de carrière, qu'ils refassent des formations, qu'à 45 ans, 50 ans ils se retrouvent au chômage dû. Enfin bon, bref, pour moi c'est un truc qui me paraît complètement vertigineux. Mais donc en fait, ce qui m'intéressait, c'était justement cette génération qui est la mienne, puisque mes personnages ont mon âge, c'était de les montrer dans ce que moi j'ai vécu à l'époque, c'est-à-dire on fait des études, on fait des études à l'époque, on pouvait encore faire des études pour quelque chose qui nous passionnait vraiment. On fait des études et puis finalement, au bout du compte, on fait un boulot qui n'est pas du tout à la hauteur des études qu'on a. Donc on se retrouve à faire en gros, si on s'adapte pas, ben on se retrouve en gros à faire la merde. Et ce que moi j'ai vécu comme étant des jobs étudiants à l'époque, aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu un truc tout à fait normal. Voilà, tout à fait normal. à 45 ans d'être livreur de pizza, de faire le maçon quand on est bac plus 6. Enfin voilà, c'est un truc qui est rentré complètement dans la vie de tous les jours. Et je me suis demandé ce que ça... Moi, j'ai eu la chance j'ai eu de la chance parce que je suis passé un peu à travers les mailles du filet et puis que j'ai décidé de faire un métier artistique. J'ai été aidé par mes parents pour y arriver aussi. Hein. Mais bon, je suis un privilégié par rapport à ça. Et je me suis demandé ce que ça faisait dans la tête de quelqu'un qu'à mon âge, de ne pas pouvoir exercer le métier pour lequel, en fait, il a bûché toute sa jeunesse. Ce que ça pouvait susciter comme colère, en fait, en soi. Parce que, tout en sachant que l'homme s'adapte à tout. Voilà. S'adapte à la misère, s'adapte à tout. C'est terrifiant, mais c'est comme ça. Donc ça m'intéressait de voir à quel point ces gens-là pouvaient être... qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, cette mécanique pouvait se gripper ? Parce qu'on pousse les gens très très loin dans leur retranchement, quand même. On a pu le voir avec tout un tas de drames sociaux, comme les suicides à France Télécom, etc., etc. Alors justement, quand est-ce qu'à un moment donné, les gens arrêtent de s'auto-agresser, c'est-à-dire de se jeter par les fenêtres, et quand est-ce qu'à un moment donné, ils prennent vraiment les choses en main et qu'ils disent « non, juste non ». Voilà, donc poussé par ma propre colère, je me suis imaginé la colère des autres.
D'accord. Et en même temps, quand on sent cette colère, effectivement, je trouve que les personnages ont beaucoup de traits d'humour, comme d'ailleurs c'est beaucoup de tes romans en sont bardés, si on peut dire, et truffés. Ce que je veux dire par là, c'est que à différentes reprises, et dès le départ d'ailleurs, on trouve vraiment des situations extrêmement incongrues, bizarres, hein, puisque, encore une fois, ça en révélait beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est en lien d'ailleurs à ce que tu expliques, hein, la formation de ces gens, au départ, de Georges, donc, qui est informaticien, et puis qui se retrouve en train de faire un truc comme ça, vaille que vaille. Pandora, qui, elle, a fait un peu de tout, de la télé...
elle était télévendeuse.
Télévendeuse, et qui se retrouve donc à faire de l'intérim de...
Oh ben elle détruit, de oui, elle est maçon. Hein, oui, hein, voilà. Donc, enfin, en tout cas, elle est maçon, elle est ouvrière non qualifiée sur en gros, les manœuvres. Quoi.
Voilà. Et cette colère qu'ont les personnages, d'ailleurs, je trouve peut-être davantage Pandora que Georges, hein, me semble-t-il, au départ, elle est quand même, et tu la racontes de manière extrêmement humoristique. Alors, je crois que c'est l'une de tes, quand même, de tes faces évidentes, pas cachées, mais évidentes. C'est la manière dont tu traites avec humour toutes ces situations qui sont... comme tu l'as un peu expliqué, qui sont souvent pas tragiques, mais qui quelquefois le frôlent, la difficulté qu'ont les gens à s'insérer socialement, etc. Et en même temps, tu n'hésites pas à utiliser l'arme de la dérision, voire du grotesque, pour faire avancer, évoluer tes personnages.
Ah oui, parce que je pense que... Enfin, je suis partie des gens qui pensent que que l'humour est la politesse du désespoir et qu'à un moment donné, moi j'arrive encore à rigoler en regardant le journal de David Pujadas et pourtant je sais combien c'est désespérant à voir, mais l'accumulation pour moi il y a trois possibilités, soit on en fait une dépression nerveuse et on bouffe des cachetons, et la France est le premier consommateur d'anxiolytiques européens, on le sait. Soit, effectivement, on s'endort devant sa télé, et on imagine que plus dur sera la chute, mais pour l'instant, on ne s'est pas cassé la gueule complètement. Soit on en rit, soit on décide effectivement de prendre ça par le biais de l'humour. Et je remets cet humour à ma chance d'exercer le métier que j'exerce, c'est-à-dire de pouvoir écrire, c'est-à-dire de pouvoir vider assez fréquemment quand même l'abcès, hein, mine de rien. J'ai cette chance-là. Sinon, ça me coûterait extrêmement cher en psychanalyste. Déjà que ça me coûte un peu cher. Mais voilà, il n'y a pas 36 manières de s'en sortir. Donc oui, effectivement, moi, je préfère en rire. Et puis je me rends compte que aussi, mais c'est peut-être aussi mes premiers pas dans la littérature jeunesse qui me font voir les choses un peu différemment, C'est-à-dire que j'en ris finalement de plus en plus jaune, quoi. C'est-à-dire mes situations de départ continuent à être un peu absurdes, mais elles finissent par le devenir moins. Mmh. Et puis la manière dont mes personnages les traitent et puis se mettent en opposition à ces situations commence à devenir de plus en plus violente et de plus en plus réactionnaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment en réaction contre. Voilà. Pas fasciste, pas quoi que ce soit, mais vraiment en réaction contre. C'est-à-dire à quel point, à un moment donné, quand on a vidé quelqu'un de toutes ses chances de s'en sortir, ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, comment peut-on espérer que les gens, à un moment donné, n'ayant plus rien à perdre, ceux qui les dirigent risquent de perdre vraiment beaucoup. Voilà, beaucoup. Donc pour l'instant, j'en ris.
Alors je disais, oui, on parlait de cette arme de l'humour, et en même temps, c'est un roman noir. D'accord avec cette formulation ?
Ah oui, oui,
bon. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que c'est un roman noir d'après toi ?
C'est un roman noir parce que si on qualifie les trois... je vais faire un peu de théorie à la con,
au moins
ça mettra les choses au clair. C'est pas un roman policier parce qu'on n'a pas un meurtre au départ et puis une enquête tout du long et puis on arrive à trouver à la fin qui est l'assassin dans Les Dix Petits Nègres. C'est pas un polar parce qu'on n'est pas du côté des hors-la-loi et qu'on n'est pas... On n'est pas un peu dans la même thématique aussi, pardon, du meurtre expiatoire. Non, on est plutôt dans la peinture d'une société, la vision de personnes qui ne sont pas destinées à être arrivées à un moment donné dans le monde du crime. Et moi, je me suis effectivement attaché à faire le portrait de la société dans laquelle je vis. Avec toutes les réactions, genre j'ai évidemment deux personnages principaux, mais qui catalysent à eux deux tout ce qui n'y a de pas bon dans la société et ce qu'il y a de meilleur aussi dans la société. Donc là, en l'occurrence, ils vont se faire un peu le rétroviseur de ce que la France actuelle, enfin en tout cas ce que j'imagine être la France actuelle, pense de toute cette merde qu'elle est obligée d'ingurgiter quotidiennement et comment, à un moment donné, on lui propose de s'en sortir et puis que finalement, je ne dévoile rien, mais est-ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle veut pas ? Mmh. Est-ce qu'elle veut faire la révolution ou est-ce qu'elle veut poursuivre sa route pour aller en vacances tranquillement pour les 3 semaines qui lui restent avant les vacances de Toussaint ?
Voilà, parce qu'on peut progresser à peine dans l'intrigue. Puisqu'elle est en quatrième de couverture, hein, donc on ne va rien révéler de plus que ce qui est dit là, c'est que donc ces personnages décident de faire en sorte d'arrêter les choses au moment de ce qu'on a. On appelle la vague des Zaoussiens d'un côté et des Juifs.
Le chassé-croisé des Zaoussiens et des Juifs.
Merci. Voilà, voilà. Donc sur un viaduc autoroutier, donc Pandora. Et son complice Georges, tous les deux, vont essayer d'arrêter le flux de ses vacanciers en leur disant « Mais votre vie est ce qu'elle est », c'est-à-dire elle est un peu... Rendez-vous compte d'un certain nombre de choses. Ça m'a fait penser à Weekend, ça,
oui.
À un moment donné.
Ah oui, oui, hein, tout à fait, Weekend de Godard.
Le film de Godard, vous savez, où il y a un immense embouteillage, et puis la caméra qui se balade comme ça, avec les réactions des gens, les uns les autres. Voilà, donc il y a une sorte de vision de la France, là aussi. La France un peu... la France de tous les jours, alors avec des côtés un peu bof, peut-être. Est-ce qu'on pourra aller jusque-là ?
Oui, et en même temps... Enfin, oui, bof...
Toutes sortes de réactions, quoi.
Il y a toutes sortes de réactions, parce qu'il y a toutes sortes de populations dans les gens qui partent... Oui. Qui partent en vacances, il y a des smicards comme des gens de la classe moyenne, comme des gens même parfois de la classe supérieure qui prennent l'autoroute pour partir avant tout le monde à 4h du matin en écoutant les conseils de Bison Futé. Moi, c'était ça qui m'intéressait parce que je l'ai fait un nombre de fois incalculable avec mes parents notamment, partir en écoutant les conseils de Bison Futé, partir de Bordeaux à 5h du matin pour se retrouver au port de la Palisse, enfin 10 km avant le port de la Palisse pour aller dans l'île de Ré et puis en fait se retrouver coincé parce que de toute façon, quoi qu'on nous dise, on y va. Sur l'autoroute A7, tous les ans, à la même époque, il y a des centaines de kilomètres de bouchons, alors qu'on dit aux gens, non, partez plus tard. Mais comment vous pouvez dire aux gens de partir plus tard en vacances, alors qu'en fait, ils sont en vacances le vendredi soir et qu'ils ont 3 semaines devant eux, pas une de plus. Donc, je ne remets pas en cause les congés payés, bien entendu. Mais juste, voilà, cette espèce de choses qui fait que déjà, à partir de là, quand vous programmez... Enfin, quand les choses sont aussi carrées que ça, il est évident qu'on n'a pas 5 minutes à perdre. quitte à aller se tuer sur le bord d'une route parce qu'on a roulé trop vite avec ses gamins, sa femme, son chien, sa caravane ou son camping-car. Il y a quand même, enfin, c'est des trucs qui m'ont toujours paru hallucinants. C'était le nombre d'accidents qu'il pouvait y avoir sur la route des vacances. Je trouvais ça dingue. 3 semaines de vacances, on préfère aller se tuer en bagnole sur l'autoroute A7 plutôt que d'arriver en retard au camping, quoi. Donc voilà, ça déjà, moi, c'est des trucs que j'ai connu gamin, puis que j'ai suivi un peu derrière, qui me semblait totalement délirant. Voilà, totalement délirant. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ce point de... C'est presque de l'hypnose sociale, quoi. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, on est dans un tunnel, on nous pressure toute l'année, et puis au moment où on doit partir, il n'y a plus de raison. Voilà, il n'y a plus de raison. Moi, je me rappelle de mon père en train de bourrer la caravane, ma mère en train de s'énerver parce que les choses n'étaient pas prêtes, et puis on démarrait la 504, et vas-y. Bon, ça va, ils étaient prudents quand même. Mais c'est un truc quand même. Et on vit toujours la même chose. Moi, je sais, quand je pars en vacances, c'est la même chose. Ma femme me presse parce que la voiture n'est pas prête, les gamins sont en train de chialer parce qu'on est super énervés. Enfin, à un moment donné, on se dit, mais... Ouf. Et quand on arrive sur place, on met à peu près une semaine à s'adapter aux vacances. Alors, une semaine à s'adapter aux vacances, une semaine à en profiter, une semaine à prévoir le retour. Pff, super.
Alors, ça, ce que tu décris, c'est presque la réalité. Mais là, on est dans un roman, hein, dans un roman avec des gens qui réagissent de manière tout à fait différente. Hein.
Oui.
Suivant, y a d'abord l'État en soi, hein, face donc à un blocage. Comment les forces de l'État vont réagir par rapport à un blocage qui est celui de la route des vacances. Il y a aussi les médias, les journalistes. Voilà, il y a donc après les différents personnages. Mais on peut peut-être s'attarder là-dessus sur d'abord, et puis aussi comment il s'appelle le responsable du syndicat des commerçants,
ah oui, oui.
De la guilde des commerçants, qui aussi est très, très inquiet de tout ça. Donc voilà, il y a les différentes protagonistes, différentes forces qui sont à l'ouvrage. Hein. Et tu es tu as une dent assez dure contre tout le monde, hein, au fond. Là. Parce qu'on va recenser donc les forces de l'État, la police, etc., les médias. Bon, voilà.
En fait, moi,
ça fait pas mal.
Ça fait pas mal. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'est de voir un peu ce que ça pouvait vouloir dire que de bloquer une autoroute. Alors, de toute façon, c'était pas compliqué. Ils se posaient des questions immédiatement purement techniques, parce que souvent, enfin, comme je démarre souvent sur des sujets très très casse-gueule, à un moment donné, il faut quand même que j'arrive à donner un peu de sens à tout ça pour que le lecteur me dise pas non, mais ça c'est pas possible, ça n'arrive jamais et tout. Donc la première question, c'était ok, on bloque un viaduc autoroutier le jour des départs en vacances, quid de la police ? C'est pas possible, en soi c'est pas possible. Donc en fait, c'était pas non plus très compliqué avec les événements qui sont passés en France. Pendant que j'étais en train d'écrire ce bouquin, on entendait dire, et c'était tout à fait à juste titre, entre les attentats, entre les manifestations, machin et tout ça, les forces de l'ordre étaient complètement débordées, des heures supplémentaires après lesquelles il fallait courir, enfin bon, une espèce de bordel pas possible. Voilà, donc résultat des courses, moi je me suis dit, de toute façon c'est pas compliqué, vu le bouchon qui est créé, les mecs, il y a 2 CRS qui sont sur place et ils envoient 4 types parce que c'est les derniers dans la caserne qui n'ont pas pris leur RTT, qui n'ont pas pris leur congé. On est dans un petit dans une petite province, donc il n'y a pas grand monde. Il y a 7 flics pour tenir tout ça. Voilà, premier truc. Moi, ça me paraissait tenir à peu près droit. Les médias, c'est pareil. De toute façon, au mois d'août, c'est pas compliqué. Tout le monde est en vacances en France. L'État est en vacances, les boîtes de production, les médias sont en vacances. Et en fait, c'est un truc assez incroyable. C'est que moi, j'avais au départ, ce chapitre devait s'appeler La République des stagiaires. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est le seul mois de l'année dans lequel, en fait, les stagiaires arrivent à un poste de commandement. Et je ne comprends pas comment ça se fait que les stagiaires ne prennent pas le pouvoir à ce moment-là. Parce que vous allez dans les médias, en fait, il n'y a plus un chef de poste. Ils sont tous partis sur la Côte d'Azur, aux Canaries ou dans les Bahamas. Il n'y a plus un chef de poste au travail. Tout le monde est barré. Le gouvernement, ils sont tous à droite, à gauche. Ils essaient de rester en France maintenant qu'on prend des photos d'eux et qu'on peut les dénoncer. Si jamais, oh là là, ils se barrent au Maroc. Donc ils restent quand même un peu en France. Mais enfin, en général, le téléphone est décroché. Et voilà. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait cette France, cette parenthèse presque enchantée. pendant laquelle, en fait, on peut prendre le pouvoir. On peut prendre le pouvoir. Voilà. Personne ne le prend, mais en tout cas, et on ne le prend pas. Et en plus, comme ce sont tous des stagiaires, enfin, en tout cas, voilà comment moi j'ai imaginé mon histoire, ce sont des stagiaires, ils ont peur pour leur carrière, donc surtout, ils ne vont pas tenter quoi que ce soit. Donc ce qui m'intéressait, c'était de les forcer un petit peu à prendre le pouvoir. Donc les médias ne bougent pas, et la seule qui bouge, c'est la première à arriver sur place, c'est une nana qui est journaliste, qui a sa carte de journaliste.
Magali.
Et qui est auto-entrepreneuse, parce qu'aujourd'hui, il y a l'intermittence du spectacle aussi est bradée. Hein, on demande plutôt aux intermittents du spectacle de devenir auto-entrepreneurs, d'acheter leur caméra et machin, et de se démerder, en gros, à faire leur boulot comme ils peuvent. Et voilà. Et elle débarque et elle arrive à faire un truc, c'est que comme un peu sa carrière chevillée au corps, eh ben, elle arrive à faire en sorte d'avoir l'exclusivité, puisque de toute façon, il n'y a personne. Enfin, puis en plus, ils sont sur un viaduc. Donc personne ne peut accéder, aucun journaliste ne peut accéder au bout de ce bouchon. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait. C'était de mettre en fait en position une France avec des gens extrêmement énervés en face de ces deux-là. Et en même temps, bah, les deux entités qui pourraient faire un peu dérailler le truc, qui sont la police et les médias, sont absents. Enfin, sont pas absents, mais sont en quantité tellement négligeable qu'en fait, ils ne font que maintenir ce qu'ils peuvent maintenir. Voilà. C'était le truc qui m'intéressait le plus. Mmh. Évidemment, dans le but de faire aboutir ce projet absolument stupide. Voilà.
Mmh. Oui, tu as dit d'ailleurs, tu as dit que bon, tu étais un peu sur la... Comment dire toujours que un peu sur un bord et l'autre du précipice, si on peut dire. Mmh. Dans ta manière de raconter l'histoire, parce qu'on voit bien que bon, la France, comme tu le dis, à l'époque des vacances, est une entité qui est totalement figée. Mmh. Hein, et donc c'est vraiment la force du roman noir que de voir comment, à un certain moment, des choses, par l'effet du hasard, peuvent bouger d'une certaine manière ou pas. Mmh. Bon. Alors je pense à des personnages comme on peut peut-être parler en particulier d'un tueur à gages, oui. un mercenaire plutôt, improbable, un mercenaire sud-africain improbable. Enfin, vous verrez pourquoi si vous lisez, quand vous lirez le livre. Hein. Est-ce qu'on peut en dire deux ou trois choses, peut-être sans trop dévoiler?
Oui, ça c'est.
Sinon, on en trouvera un autre. Hein,
mais... Non, mais on peut en parler, bien sûr. Mais ça, c'est la licence. Ça, c'est. Enfin, oui. C'est... Moi, c'est des trucs qui me permettent de pouvoir faire du noir tout en me marrant quand même un peu. Donc, il était évident que là-dedans. Mais parce que c'est une chose aussi à laquelle je crois, c'est-à-dire que tous ces vacanciers bloqués sont autant de vacanciers en moins dans les locations de... Alors bon, évidemment, la Côte d'Azur n'est jamais citée comme telle. Hein, c'est toujours la côte. Voilà, je ne vais certainement pas me mettre à mal la région PACA. Vu le nombre de mafieux qu'il y a là-bas, j'aimerais éviter d'avoir un contrat sur ma tête. J'ai des enfants et une femme. Donc je ne dis jamais que ça se passe là-bas. Mais bon, il est évident, c'est entre nous. On est du sud-ouest. On défend
notre territoire. Moi, j'ai identifié le viaduc. Ah. Mais je n'en dirai pas plus.
Ah bon, bah, il est inventé de toutes
pièces. Il est inventé de toutes pièces, mais enfin, bon.
Et donc, voilà. Donc du coup, j'ai imaginé un syndicat... comme il peut y en avoir, hein. Enfin un syndic en tout cas de commerçants de la Côte d'Azur tremblant de ne pas voir arriver ces milliers d'automobilistes qui ont réservé évidemment depuis très très longtemps et puis étant donné que enfin on sait tous encore une fois parce qu'il y a personne de la Côte Sud-Est à part un monsieur que je connais là-bas qui est de Cannes mais
Pas de nom,
mais voilà, on sait que ces gens-là ont de l'argent, des caisses noires et tout ça. Enfin, peut arriver, en tout cas.
Pas tous. Il y a aussi d'honnêtes citoyens.
Hein. Il y a d'honnêtes citoyens, heureusement. Mmh. Bon, bref, en fait, en gros, la première idée qui leur vient en tête, évidemment, c'est d'engager un tueur à gages pour éliminer cette nana qui menace de se tuer. On se demande pourquoi elle se tue pas, d'ailleurs, plus rapidement. Donc, du coup, voilà, ça m'intéresse. Mais ça, c'est pour rester, parce que c'est un réflexe chez moi, d'être toujours dans la licence absurde, quand même, et de toujours, quand même, mettre en scène des situations totalement grand-guignolesques, absurdes, puis qui, moi, me font marrer, sont d'autant plus des virgules, parce que je sentais quand même que je m'enfonçais quand même de plus en plus dans un, dans une espèce de pessimisme qui m'était à moi-même néfaste. Donc ce personnage de tueur à gage a été pour moi souvent une ressource de rigolade. Voilà, cette espèce de pied nickelé qui prétend qu'il a fait les Blackwater aux États-Unis, alors qu'en fait, pas du tout, c'est un gros menteur. Enfin bon, vous le comprenez assez vite dans le bouquin d'ailleurs.
Comme le garde du corps d'ailleurs, Voyelle.
Oui, voilà. Mais Voyelle est un personnage plus touchant dans le sens
c'est
où,
vrai,
où
oui,
voilà, là j'avais envie de créer un personnage justement un peu
admirateur des films avec de Tarzan.
Un personnage un peu comme ça, au départ un peu bête et stupide, et puis qui finalement devient attachant. Voilà. Mais je pense que j'ai eu énormément d'envie sur ce roman et qu'elles se sont concrétisées à travers tous ces personnages.
Oui, alors on voit bien le côté burlesque et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Te demander peut-être si tu as... parce que dans le roman noir, c'est vrai qu'il y a une tradition burlesque, un peu comme au cinéma hein, d'ailleurs, qu'on retrouve dans ton roman. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est quand même un roman noir, vous l'avez bien compris. Hein. Donc, roman noir, parce que je trouve qu'il y a quand même une très grande exactitude vis-à-vis des armes employées. Les Glock en particulier, avec leurs munitions. Parle-moi des munitions. Comment elles s'appellent ?
La Wadcutter.
Voilà, la Wadcutter, oui.
Ben, en fait, au départ, quand j'ai... Encore une fois, quand j'ai eu la... Quand le CNL m'a accordé cette bourse à l'écriture, où j'ai vraiment... Donc, je répète, j'avais envie vraiment d'être un très, très bon élève. Et non, et puis surtout, c'était que j'avais jamais, jusqu'à ce moment-là, fait de recherche pour mes bouquins. À part des petites recherches comme ça, rapidos, sur Internet. Donc je me disais que c'était peut-être le moyen, le moment en tout cas, d'essayer comme ça de me documenter un peu plus sérieusement en rencontrant des personnes. Alors, j'ai toujours autour de moi comme ça des copains ou des gens que je connais qui ont une certaine expertise dans certains niveaux, en médecine, enfin dans tout un tas de domaines que j'appelle quand j'ai vraiment besoin d'un détail pour éviter de me faire piéger par un lecteur à la fin d'une rencontre en disant mais c'est pas vrai, ça c'est pas comme ça machin et tout, bon bref et donc là il s'avérait quand même que pour que cette femme puisse avoir une arme au départ en tout cas dans l'histoire de départ qui n'est évidemment pas celle-là il fallait qu'elle ait une autorisation de port d'armes, voilà. Donc là, j'ai changé les choses, c'est plus le cas. Mais en tout cas, il s'avère que néanmoins, ce que j'en ai gardé, c'est que Pandora a fait mon héroïne a fait du tir. Voilà. Et donc, du coup, à l'époque, j'avais été me renseigner auprès d'un directeur de champ de tir à Mérignac, qui avait passé des heures et des heures à me raconter, à m'expliquer ce que c'était qu'un flingue, quoi. Et puis qui m'avait amené sur un champ de tir, qui m'a fait essayer des armes à feu. Et en fait, j'ai rencontré un personnage qui, évidemment, c'était sa passion. Moi, j'ai toujours eu une espèce d'aversion pour les armes à feu, en même temps qu'une certaine fascination. Pour cette espèce d'objet de mort qui est très bien foutu, qui effectivement tient magnifiquement dans la main et tout ça. Et j'ai rencontré un mec qui m'a expliqué en fait par A plus B qu'il était absolument, et il a tout à fait raison, qu'il était en tout cas légalement impossible de détenir une arme en France sans être déclaré en préfecture, avec tout un espèce de protocole qui fait qu'à la moindre connerie que vous faites, quand je parle de connerie, c'est-à-dire que vous déviez d'un kilomètre sur le parcours que vous avez déclaré en préfecture, devoir suivre avec votre arme pour aller au champ de tir. Voilà. Si vous vous déviez d'un kilomètre et que vous faites choper par la gendarmerie, on vous enlève votre licence, vous n'avez plus d'arme, vous la rendez, enfin bon bref, et en plus, c'est inscrit au casier judiciaire. Donc c'est très, très, très réglementé. Et je me posais la question, tout le temps où il me parlait, je me suis dit, mais on était chez lui, et je me disais, mais en fait... quel est le plaisir, malgré tout ça, là, de détenir une arme, de faire du tir ? Et j'ai compris quand il m'a... Enfin, j'ai pas compris, d'ailleurs. Il m'a amené sur le champ de tir et il m'avait parlé d'un truc. Donc, c'était du tir de compétition. Il m'a amené sur un stand de tir de compétition. C'est-à-dire tous les mecs qui sont dans un stand de tir font évidemment de la compétition. Heureusement qu'ils tirent sur des bouts de carton, d'ailleurs. Et il m'avait expliqué en fait qu'ils utilisaient, c'était la Fédération française de tir, recommande pour les compétitions de tir de précision, donc sur des cibles de 10 sur 10, là, à 50 mètres, l'utilisation d'une munition qui s'appelle la balle Wattcutter. Alors la balle Wattcutter, c'est une munition de 9 mm, avec, plutôt que d'avoir une ogive, hein, vous savez, les balles, les balles sont généralement soit ogives, soit pointues, c'est une balle à tête plate. Voilà. Alors pourquoi une balle à tête plate, me dit-il, parce que quand on touche la cible, ça poinçonne la cible plus précisément qu'une balle à ogive. Alors je me suis renseigné après coup, il s'avère quand même que la balle Wattcutter, c'est une munition qui équipe les forces de police américaines, qui quand elle touche un homme, fait un trou de 4 mm devant et une excavation grande comme ça à l'arrière, quoi.
3 cm, tu dis, voilà. Oui.
C'est un truc délirant. Donc c'est, en fait, c'est une munition de guerre. Mais en France, elle est recommandée par la Ligue française de tir de précision pour marquer la cible extrêmement précisément. Mmh. Et j'ai vu ces mecs tirer. Et pendant, je suis resté 3 heures, j'ai regardé ces gens tirer. J'ai tiré moi-même. Et vous savez, c'est un peu l'impression j'avais un peu l'impression d'avoir affaire à des gens qui ont acheté un fauve et qui sont contraints de le tenir en laisse et voire en cage. C'est-à-dire quelle jouissance à un moment donné d'avoir un si bel animal, si c'est pas pour le lâcher comme ça sur son ennemi ou le faire manger une chèvre devant vous pour profiter un peu de cette vision de sang. C'est-à-dire, j'avais des mecs qui avaient des... Enfin, moi, j'ai tiré avec un magnum. Enfin, je veux dire, c'est dingue quand même. C'est dingue d'avoir des armes comme ça dans la main pour tirer sur un morceau de carton. Je dis pas qu'il faut faire des cartons sur les gens, mais je me suis mis à la place de ces gens et je me suis dit, mais ils vont rentrer chez eux ce soir. Après cette défoulée là sur des bouts de carton, ils vont rentrer, ils vont démonter leur arme, et ils vont la mettre dans un coffre-fort, les munitions à part, et ils ne pourront pas faire autre chose. Bah, tant mieux, hein. Franchement, j'en suis très content. Mais en fait, la finalité de tout ça, je ne la comprends pas. Voilà. Et j'ai continué à ne pas la comprendre, et du coup, ces questionnements, plutôt que de mettre une recherche de précision sur mon personnage, bah, je lui ai filé toutes mes questions en fait. Elle a fait du tir, elle ne sait même pas pourquoi. Et puis, en fait, elle a arrêté de faire du tir parce que toutes les questions que moi, je me posais, elle se les a posées, elle s'est rendue compte que c'était juste ridicule, quoi. Mmh. Voilà. C'était ridicule. On ne vit pas aux États-Unis, on n'a pas le droit d'être armé, ou alors il faut avoir un dossier comme ça en préfecture pour. Donc, le pourquoi de tout ça. Ben, le pourquoi, elle a trouvé, elle se le met sur la tête et elle se menace elle-même. Et elle propose aux gens plutôt de faire la révolution, peut-être sans armes, je ne sais pas.
Mmh. Alors comme on est dans un roman noir, c'est vrai qu'on parle d'armes, on parle de balles, comme tu l'as fait. Et moi, je voulais faire un peu une transition avec la manière dont tu racontes ton histoire, c'est-à-dire et la trajectoire des balles. Je m'explique. À certains moments, il y a des gens qui tirent, hein, qui tirent des fléchettes, des balles, etc. Et tu décris la trajectoire des balles, tu décris des moments où... Ben, le temps s'arrête et on aurait même l'impression que tu as envie de rétro-pédaler quelque part. Et puis, on voit comment après les choses s'enclenchent. Et j'ai trouvé que bon, c'était vraiment un style qui faisait référence à la cinématographie, au cinéma, dans cette manière comme ça de faire accélérer, puis au contraire ralentir ton histoire. Voilà, bon, je voulais un petit peu qu'on puisse parler de la manière dont le cinéma peut-être a influencé ton écriture, non seulement parce que, on y reviendra, non seulement parce que tu parles d'un certain nombre de films qui sont en résonance avec ce qui se passe, hein, avec ce que tu racontes, mais aussi dans ton style et dans la manière dont tu écris.
Bah, disons que c'est un peu la... Enfin, j'ai la chance effectivement de trouver, enfin de pouvoir écrire et d'être publié. Sinon, je pense que j'aurais mal digéré le deuil que j'ai fait du cinéma. Enfin, le deuil que j'ai fait. Oui, si c'était une sorte de, je voulais être réalisateur, je l'ai été, mais j'ai pas fait la fiction que je voulais. J'ai pas fait de long métrage. Mmh. Et c'est vrai que j'ai ingurgité un nombre incalculable de films depuis très jeune, et qu'il y a une espèce de magie, enfin. Dans ma manière d'écrire, je visualise en fait systématiquement chacune de mes scènes. Là particulièrement sur ce roman-là, je fais référence à un certain nombre de films, mais en tout cas je les cite. Mais c'est vrai que Oui, l'image en mouvement est pour moi un truc extrêmement présent quand je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que je vois mes scènes, je vois mes décors. La seule chose que je vois pas, en fait, c'est le visage de mes personnages. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Mais en tout cas, les scènes se pondent. Je peux vous le décrire. Si je savais dessiner, je le dessinerais. Il y a tout un tas de détails. Il y a aucune scène, en fait, qui est floue dans ma tête. Et je sais que tant que je n'ai pas réussi à donner la vision que j'ai dans la tête, ça va pas. Ça marche pas. C'est donc du coup, c'est vrai qu'on on me dit souvent, et j'en suis plutôt content d'ailleurs, que j'ai un style plutôt visuel et très cinématographique, mais c'est presque du domaine de l'inconscient. Enfin, c'est-à-dire, je n'écris pas en pensant que le bouquin sera adapté. À chaque fois, je croise les doigts en disant pourvu qu'il le soit. Mais en tout cas, je ne l'écris pas comme ça. Mais voilà, c'est oui, la vision cinématographique, ces scènes d'arrêt. Tu fais référence à une scène en particulier, effectivement, avec un espèce de tir croisé totalement absurde et compagnie. Et c'est vrai que moi, je revois quand je l'imagine, quand elle me vient, en tout cas, elle me vient pas de nulle part. Elle me vient de films que j'ai pu voir, parce que je pense que le cinéma, c'est le substrat absolu de la fiction, au-delà de ce qu'on peut pousser dans la crédibilité d'une scène. Le cinéma pardonne tout. Vous pouvez faire décoller une colombe derrière un mec qui se balade avec du vent dans son manteau, avec un incendie derrière lui. Ça posera pas de problème au spectateur qui est venu voir un film de John Woo, par exemple. Vous pouvez faire un plan d'un quart d'heure sur une femme à demi nue qui interroge son mec sur ce qu'il aime chez elle ou sur ce qu'il déteste. Ça posera pas de problème aux gens qui aiment Godard. Donc, je veux dire, le cinéma permet tout à la fiction. Et moi, je prends la partie d'un San Antonio, donc d'un Frédéric Dard, en me disant que finalement, pour l'écriture, c'est la même chose. L'écriture pardonne tout à la fiction. On peut inventer n'importe quoi. Mon seul travail, moi, derrière, c'est de faire en sorte que tout ça tienne debout. Donc, comme un réalisateur. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne sorte pas de mon univers et que mon univers tienne debout. Voilà.
Oui, alors, évidemment, bon, à la lecture, on trouve beaucoup de références, ou même inconscientes. Hein, la poursuite de Pandora, après que Pandora ait fait un acte...
Sacrilège,
donc, dont on ne dévoilera pas ici les ressorts. Mais bon, ça m'a fait penser, par exemple, à Buster Keaton et aux fiancés en folie.
Cette poursuite. Fury de Long aussi. Cette population lâchée à l'arrière d'un couple qui s'échappe.
Bon, etc. Et puis tu fais des allusions très précises, hein, par exemple, à Zabriskie Point de Serafian.
Ouais. Hein,
parce que, bon, il y a aussi dans ce film noir des années 70. C'est donc l'itinéraire de quelqu'un qui s'enfuit en voiture. Et il y a un DJ noir aveugle qui commente son épopée, son odyssée à travers tous les États-Unis. Et donc tu t'es inspiré de ça aussi de manière explicite.
Ah ben moi il y avait deux films piliers, mais clairement cités en plus. Hein. Pour moi, c'était vraiment deux hommages à deux films qui m'ont vraiment pris aux tripes très très rapidement dans ma jeunesse, qui sont Network. Et Vanishing Point de Serafian, qui sont Network. Alors je vous conseille de voir ces films. Network de Sidney Lumet, où c'est un présentateur de télévision qui fait les news depuis des années, qui présente le journal de 20h. En gros, c'est un vieux Pujadas, un peu plus sympa quand même, qui fait les news depuis 20 ans sur la chaîne ABC et qui, du jour au lendemain, apprend qu'il va être viré. Donc le soir de son dernier journal, il pète complètement un plomb et il annonce que dans 15 jours, il sera à l'antenne, il se suicidera en direct devant le public. Et à partir de là, en fait, l'audience monte immédiatement et les producteurs qui pensaient le virer, en fait, lui offrent chaque soir une demi-heure d'antenne pour dire ce qu'il veut. Et ce mec-là continue dans sa folie et se lance dans une espèce de tous les soirs, il fait une espèce de plaidoyer pour la révolte du peuple américain. Et au bout d'un moment, il finit par faire sortir les gens de chez eux. C'est-à-dire, les gens vraiment sortent aux fenêtres et il leur dit « Sortez de chez vous, mettez-vous à la fenêtre et dites « Ça suffit, je ne supporte plus ça, je n'en peux plus. » Voilà. Donc c'est l'histoire de ce mec-là. Et puis il y avait effectivement Vanishing Point, avec ce type qui traverse les États-Unis avec toutes les forces de police d'un État derrière lui, et qui est encouragé par pour lequel un DJ d'un tout petit peu, un tout petit bled de l'Oklahoma lui met des musiques. Voilà. Et commente son épopée et l'encourage, en fait. Voilà. Et moi, c'était très clair. Pour moi, c'était très clair. J'avais vraiment envie d'utiliser ces deux piliers, rendre hommage vraiment à ces deux films. Non pas que j'ai rien inventé, mais en tout cas, pour moi, ces deux piliers étaient extrêmement importants. C'est-à-dire cette nana qui, à un moment donné, prend les armes, se menace elle-même. Je faisais une grosse contraction de network. Se menace elle-même en disant « Faites la révolution et personne ne me délogera de là, sinon je m'en fous dans la tête. » Et de l'autre côté, ce jeune étudiant, encore une fois un stagiaire d'une station de radio campus, sachant que de toute façon, personne ne l'écoute parce qu'il est là pour passer des disques, et plutôt que de passer du Anne Sylvestre et du Georges Chelon, se met à mettre des morceaux. Il a une grande culture de la musique révolutionnaire, donc il passe que des morceaux sur le thème de la révolution, et puis ça prend, et puis ça fait la BO, un peu, ça faisait un peu la bande originale du bouquin.
Oui, alors, moi j'ai découvert une chanson que je connaissais comme ça, le titre, c'est Consosao de Gilbert Toujours.
Ah oui, Gilbert Toujours, qui est superbe, incroyable. Ouais, oui, qui raconte,
superbe chanson des années 60.
Oui, qui raconte l'histoire de Brasilia.
La construction de Brasilia. Et voilà, comment ça se passe pour un ouvrier qui va tous les matins et qui ne supporte pas cette cette
chanson terrible de Gilberto Gil, magnifique. Gilberto, pardon. Ouais. Il s'appelle Construxao. Parce que évidemment, quand ils ont construit Brasilia, ils l'ont construit en, je sais plus, 3 ans, je crois, un truc comme ça. Évidemment, il n'y avait pas de syndicat, il y avait pratiquement plus de policiers sur place que d'ouvriers. Et quand on se révoltait, en général, on finissait avec une balle dans le dos. Quoi. Donc, c'est une très belle chanson.
Une chanson. D'ailleurs, il y a toute une à la fin du roman. Il y a des références à la fois cinématographiques et puis discographiques. Hein.
Ça, c'est mon petit frère qui m'a fait ça.
Ah oui.
C'est mon petit frère à qui j'ai... mon petit frère, qui a gentiment 3 ans de moins que moi. Mais c'est mon petit frère quand même. À qui j'ai demandé très rapidement, parce qu'il lui-même a une grosse culture musicale, à qui j'ai demandé de me fomenter une liste avec les histoires à chaque fois. Ouais. Une liste de morceaux qui traitaient de la Révolution. Et voilà, avec ce genre de thème-là.
Il en manque très peu.
Oh, il en manque quand même une chier.
Donc, on va remercier Sébastien de cette prestation. En ce qui me concerne, moi, je ne peux que vous recommander de lire ce roman, qui est vraiment très, très fandard, si on peut dire, entre guillemets, très amusant, qui vous mettra du baume au cœur. Merci.